Merci pour elles, merci pour eux. Merci.
Alors, je ne sais pas s'il y a une première question tout de suite. Moi, je voulais peut-être quand même te demander, parce que à un moment dans la présentation que tu fais du film, tu dis que c'est comme une fleur qui a poussé dans les ruines. Tu peux un petit peu préciser ça ?
En fait, il y a deux mondes en superposition. Il y a le monde qu'on voit et qui est surreprésenté dans le spectacle médiatique, dans le cirque médiatique. Et il y a le monde invisible, celui qu'on ne voit pas et qui pourtant est déjà là. Le berceau de notre monde, en fait, ces fleurs dans les ruines, ce sont toutes les initiatives de toutes sortes qui nous montrent déjà la société à venir, une société enfin plus horizontale, plus juste, plus éclairée, basée sur l'entraide, l'autogestion et beaucoup d'autres choses encore. Et puis ça va jusqu'à des attitudes, voilà, des attitudes chez les personnes, entre elles, vis-à-vis de personnes qu'elles connaissent ou qu'elles ne connaissent pas. Et tout ça, ce sont les racines déjà de notre monde qui sont déjà là. En fait, il suffira un jour de basculer, mais pas un seul jour, bien sûr, mais ça se passera au fur et à mesure, mais il faudra quand même se dépêcher, vu le contexte. Nous basculerons de ce vieux monde en ruine qui n'en finit plus de mourir, comme le veut la formule, à ce berceau de notre monde qui est déjà enraciné dans celui-là. Voilà. Nous sommes en superposition, en fait. Et voilà le sens pour nous de ces fleurs dans les ruines.
À vous la parole. N'hésitez pas, je vous passe le micro.
Comment ça se passe, les convois, et depuis quand ça a lieu, le fait qu'il y ait des convois qui partent de France et d'autres pays vers Exarchia? Et quand est-ce que part le prochain convoi, du coup?
Alors, en ce moment, il y a deux fourgons qui sont déjà arrivés sur place depuis quelques jours et qui ont amené d'urgence de l'alimentation adultes et enfants, et surtout du lait infantile à des endroits où c'était nécessaire. Donc deux fourgons qui étaient disponibles pour y aller un peu plus tôt que les autres. Le 26 mars prochain, cinq fourgons, deux utilitaires et trois fourgons, avec huit personnes en tout, des bricoleurs et des bricoleuses, vont partir avant le gros convoi, pour aller faire des travaux dans des lieux, en particulier le Notara 26, qui a besoin de travaux au premier et au sixième étage, notamment en plomberie, en électricité. Il faut repeindre, il faut faire plein de choses. Et donc du matériel de bricolage et des outils en tout genre repartent avec des gens qui savent s'en servir. Plus de femmes que d'hommes, d'ailleurs, je tiens à le signaler, pour le convoi de bricolage. Et ensuite, nous partirons après la dernière du film de cette tournée. Il y en aura d'autres plus tard, mais on va s'arrêter pour l'instant, faire une pause après le 6 avril. Donc le 6 avril, on se retrouve à Martigues, au cinéma La Cascade, au nouveau cinéma. Et toute la journée, nous serons au lieu autogéré, le rallumeur d'étoiles, avec HK et les saltimbanques, avec beaucoup de monde, toute la journée. Et dès le lendemain, certains partiront vers l'Italie, et d'autres partiront que le lundi 8, et donc on a déjà pris nos billets pour le 9 avril. Voilà. Il reste de la place, mais pas pour les plus de 2 mètres. Si vous êtes petit en véhicule, ça va. Si vous faites plus de 2 mètres, malheureusement, ce ne sera pas pour cette fois, parce qu'une des règles de base, c'est de prendre le bateau ensemble. Voilà. Il faut se préparer ensemble, collecter ensemble, se concerter avant, hein, apprendre à mieux se connaître aussi. C'est une des bases, hein, pour faire plein de choses ensemble. C'est mieux se connaître, partager des moments de convivialité durant lesquels on ne parle pas seulement de ce qui nous réunit, des actions qu'on doit mener. Ça permet de mieux se comprendre, ça permet de se faire confiance aussi. Et c'est valable aussi pour les convois. Donc passer du temps, par exemple, traverser l'Adriatique en 22 heures de bateau, c'est un moment très fort pour beaucoup qui font le voyage pour la première fois avec nous. Ça permet de se préparer pour la livraison à venir. Après, dès qu'on est sorti du bateau, il ne reste plus que 2h30 de route entre Patras et Athènes pour aller commencer à livrer. En général, on commence par le Notara 26 et à l'ouest d'Exarchia, qui nous accueille avec beaucoup d'enthousiasme. Et ensuite, on va au Cavox. Vous avez l'occasion de discuter dans la cave secrète avec Ruvi Konas, par exemple. Et où on va aussi aider à compter les boîtes de médicaments dans la structure autogérée de santé. On va faire plein de choses. On fait la cuisine solidaire On prépare la cuisine, on va aider à la distribuer. Et on la partage aussi, ça c'est essentiel. Voilà. Puis certains vont jusqu'en Grèce du Nord, certains vont jusqu'en Crète pour aller soutenir d'autres luttes aussi. Voilà. On a fait des cabanes à Castelli contre l'aéroport, mais elles ont été détruites par des milices sur place, des milices fascistes avec des armes à feu qui circulaient librement sous les yeux de la police il y a quelques temps. Ça nous a rappelé pour certains la zone à défendre de Sivens où en début 2015, entre janvier et mars 2015, il y avait aussi des milices qui passaient, qui circulaient autour et dans la ZAD sans intervention de la gendarmerie, alors que nous ne pouvions pas accéder à celle-ci. Voilà. Donc c'est un contexte un peu difficile pour cette lutte. J'ai des très bonnes nouvelles par ailleurs, mais à Castelli en ce moment, c'est un peu difficile pour cette raison.
Je veux juste donner des petites précisions par rapport à ce que tu as dit. Tu as parlé du convoi jusqu'en Grèce, mais si on veut parler du local, il faut savoir que, il y a quelques années, tout ce qui avait été collecté dans les Pays de Loire ont été emportés jusque chez toi, et on a vu les tonnes de... d'objets, en fait, de nourriture, de biens emportés là-bas, Erzerkaya. Voilà. Je ne sais pas ce que vous avez prévu pour ce qui a été collecté aujourd'hui, par exemple. Est-ce qu'il y a déjà des gens qui vont vous reporter ça ?
Oui, oui. Alors, à l'époque où toi, tu étais descendu jusque dans le Tarn, en fait, on était 70 à partir, avait 28 fourgons. Donc c'était un gros convoi. Là, ce coup-ci, on va être 14 à partir, donc la moitié, 14 fourgons, hein, donc la moitié en termes de nombre de fourgons. Mais après, précédé par 5 fourgons de bricolage, 2 autres qui sont déjà sur place aujourd'hui. Les fourgons qui partent dans votre région, il n'y en a pas exactement. Il y en a un à Quimperlé, sur l'ouest, qui a collecté durant notre tournée en Bretagne en cinéma. Et dans des lieux autogérés. Il y en a un à Bordeaux et qui nous a accompagnés jusqu'à l'île d'Oléron pour la collecte. Et là, la collecte de Angers ce soir, nous allons l'amener à Caen demain, parce que demain, il y aura un très grand fourgon qui partira de Caen, avec Arthur au volant, entre autres. Et donc, c'est nous qu'allons rabattre ce soir. Il n'y a pas de deuxième fourgon ce soir, c'est nous qui rabattons à Caen la collecte de ce soir. Voilà. C'est comme ça que ça fonctionne pendant la tournée. En plus des actions locales qui sont faites, des collectes locales qui sont faites ici ou là, le fourgon de la table de presse que vous allez voir en sortant, la table de presse du film, permet aussi donc de déplacer les choses d'un fourgon à l'autre jusqu'à la Belgique, puisqu'on a un fourgon qui partira de Liège. Voilà. Et c'est de mouvement social à mouvement social. Ce n'est pas une action humanitaire. C'est une action solidaire.
Alors, c'est ça qui est formidable, je trouve, dans ton film. C'est cette convergence des luttes. Parce qu'on se dit que dans la période récente, ben, ça a été pas très, très évident en France. Et là, il y a quand même des choses qui convergent. Et ça, bon, on sent bien qu'il y a un dynamisme qui se crée dans cette convergence et un enthousiasme. Hein. Mmh. Les soulèvements de la terre, absolument, bien sûr. Et puis, bon, mais il y a eu bon, aussi d'autres mouvements sociaux. Bon, on ne va pas tous les citer. Et c'était un peu chacun séparément, quoi.
Quand les temps sont difficiles, en fait, on oublie un petit peu les détails de nos désaccords parfois. Et ça, c'est très intéressant. Parce que sinon, à l'ordinaire, quand on est moins dans l'urgence, on a tendance à regarder le contenu des tracts du voisin, on a tendance à parfois à troller les pages internet du voisin, etc. etc. Je pense que vous connaissez tout ça. Et de critiquer, etc. Et en fait, on perd un peu notre énergie ainsi. Et en plus, on ne donne pas une bonne image au-delà du mouvement social à une population qui en a marre de voir les gens divisés. Voilà. Parce qu'il y a plein de gens qui demandent qu'à s'investir, s'engager, participer, soutenir, mais qui sont lassés de ça. Donc non seulement c'est absurde, ça fait perdre de l'énergie, mais en plus c'est vraiment dommage parce que du coup on a moins de soutien dans la population. Quoi. Il faudrait qu'on se rappelle simplement des choses simples, qu'on n'est pas né au même endroit, au même moment, qu'on n'a pas reçu la même éducation, la même culture d'origine, on n'a pas lu les mêmes livres, on n'a pas fait la même rencontre. Là, en l'occurrence, on a vu le même film, mais par ailleurs, il y a plein de raisons pour lesquelles il est tout à fait logique qu'on n'ait pas exactement les mêmes opinions, les mêmes façons d'agir, les mêmes priorités dans la lutte, quoi. Et donc, en plus, on devrait se rappeler que je est un autre, que nous-mêmes, on a évolué dans notre vie, qu'on n'a pas fini d'évoluer, et c'est tant mieux, grâce à ces rencontres, grâce à ces rencontres parfois contradictoires. C'est aussi la démarche philosophique dans l'existence, quoi, qui nous permet de nous remettre en question à chaque instant. Et grâce aux autres, celui qui nous contredit, qui est capable de nous expliquer pourquoi, eh bien, c'est nous qui avons tort. C'est quelqu'un qui nous fait un cadeau, quoi. Il faut le remercier, il ne faut pas être susceptible pour cela, quoi. Voilà. Donc, ça serait bien de se rappeler ça, parce qu'on est tous différents, tous égaux. Et justement, nous, on ne prône pas, contrairement à d'autres, une société basée sur l'uniformité, mais une société basée sur la diversité qu'on considère comme un enrichissement, comme la meilleure façon d'avancer, en profitant ainsi ensemble aussi de l'intelligence collective. L'intelligence collective, ce n'est pas seulement 1 plus 1 égale 2, c'est 1 plus 1 égale 3, parce que non seulement on apporte chacun les informations, les arguments des uns et des autres, mais en plus, grâce à cela, on peut aller plus loin ensemble, on peut avancer ensemble vers l'utopie, vers beaucoup plus d'intelligence. Au départ, quand j'étais enfant, j'étais un peu, vous vous en doutez, un petit peu désobéissant. Je n'aimais pas trop me soumettre. Et après, j'ai compris qu'il y avait une autre raison beaucoup plus intéressante que la seule volonté de choisir sa vie. C'était aussi le fait d'être, en quelque sorte, dans une démarche de construction collective, grâce à cette fameuse intelligence collective dont on ne peut pas profiter tous ensemble quand on laisse des personnes décider à notre place, réfléchir à notre place, se prétendre expert ou chef dans tous les domaines. Et ainsi... nous enlever quelque chose qui est pourtant l'une de nos forces principales.
Avec les convois, est-ce qu'il est plus intéressant de rassembler des produits que de l'argent ?
Ah non, bien sûr, il vaut mieux... On collecte aussi de l'argent qui permet sur place de faire plein de choses, voilà. Évidemment. Oui. À la sortie, si vous voulez, vous avez une urne soutien qui vous pouvez participer. Il y a déjà des choses qui ont été faites grâce à ATA, grâce au Cercle 49 et d'autres ici... Voilà, c'est évidemment, c'est aussi le nerf de la guerre. Hein. Mais bon, il y a beaucoup de gens qui ont envie d'apporter quelque chose concrètement, soit quelque chose qu'ils ont déjà en stock, voilà, donc il y a cet esprit de recyclage, en fait, quelque part aussi. Hein. Et puis, quelquefois, des gens qui n'ont peut-être pas complètement confiance, et pourquoi pas. Et dans ce cas-là, s'ils veulent amener une boîte de lait infantile, de lait en poudre pour les bébés ou des couches, voilà, au moins ils savent que ça servira à ça, quoi, parce que je vois pas très bien les convoyeurs mettre ce genre de choses ou consommer ce genre d'aliments, voilà. Donc les deux sont possibles. En fait, on pourrait même s'interroger sur l'utilité de continuer à faire des voyages à l'heure où les énergies fossiles commencent à manquer et où la question de l'empreinte écologique est essentielle. Mais il ne faut pas oublier que nous sommes des êtres symboliques et que la société tout entière est une construction symbolique. Le pouvoir lui-même que nous avons face à nous est une construction symbolique à laquelle nous nous soumettons et que nous construisons par notre soumission, comme le disait La Boétie, et encore mieux Anselme Bellegarigue, un auteur français que personne ne connaît en France et qui est extrêmement connu en Grèce. Bellegarigue, en Grèce, il est traduit, il est tagué sur les murs, quoi. Ses citations sont taguées sur les murs. En France, vous ne connaissez pas cet auteur, enfin, pas beaucoup. Qui c'est qui connaît Anselme Bellegarigue? On fait un test, là, si vous voulez. Allez, voilà. Allez, 3, 4, voilà. Et vous vous rendez compte, on est plus de 200, il y en a 3 ou 4 qui connaissent Anselme Bellegarigue, alors que c'est un auteur français, quoi, et qu'il est très connu là-bas. Voilà. Il est sur la table de presse, ça vous intéresse. Puisque je vous ai dit que les cartons de citation du film, vous pouvez les retrouver sur la table de presse grâce à nos copains, à nos partenaires qui nous ont tant aidés pour la préparation de cette tournée. Et donc, tout cela est une construction symbolique, que ce soit le pouvoir, que ce soit nos actions collectives, tout ça, nous sommes d'abord des êtres symboliques autant que sensibles. Et par conséquent, faire ce genre de convoi, quand on voit l'enthousiasme que nous rencontrons à l'arrivée et même l'importance que cela peut revêtir pour les personnes qui font pour la première fois ce voyage et qui partent un peu à la découverte de cet univers qu'ils ont éventuellement découvert uniquement à l'écran, bien c'est extrêmement important aussi d'avoir des moments comme ça, quoi. On a besoin de ça, on a besoin de ces moments forts pour avancer vers l'utopie, de se transmettre des signaux. À l'arrivée, quelquefois sont déployés des drapeaux rouges et noirs, des drapeaux attaque, des drapeaux mauves féministes, des drapeaux rouges ou que noirs, ou d'autres, des drapeaux antifascistes, des drapeaux d'autres auxquels je ne pense pas à l'instant, quoi. Et chacun s'exprime à sa façon et à sa rencontre à l'arrivée. Un accueil absolument formidable. Je vous invite à jeter un coup d'œil là-dessus dans la deuxième partie de L'amour et la révolution, le film précédent que nous avons fait et que vous pouvez trouver sur Internet. Hein. Vous n'avez pas besoin de prendre le DVD qui est sur la table de presse à la sortie. Tous nos films, on les a mis sur Internet et celui-là, on le mettra un jour sur Internet, bien sûr, aussi, en version longue. Nous sommes nos propres pirates. Voilà. Et donc, je vous le dis parce que je ne veux pas que vous achetiez le DVD. Si jamais vous n'avez pas trop de moyens, sachez-le. Quoi, voilà. Et c'est mieux d'acheter des livres à la rigueur parce que ce soir, ils sont presque tous à moins 50% alors qu'ils sont neufs et récents. Voilà.
Oui. Attends, j'apporte le micro parce que sinon, on n'entend pas puis c'est enregistré.
Oui, je me demandais quel était... Bon. Les journalistes, bon, ben,
lesquels?
Ben justement, je voulais savoir, on sentait des
en Grèce ou en France?
Non, de ce qu'on a vu en Grèce, il y a des positionnements quand même différents, semble-t-il. Il y avait un peu de moquerie, un peu. Et la population, voilà, qu'est-ce qu'il en est?
Bon, chez les journalistes, il y a de tout. C'est comme en France, hein. Il y a des journalistes qui font bien leur boulot, des journalistes qui sont des valets du pouvoir, des journalistes qui vont à la gamelle. Vous les connaissez. Je pense qu'on peut vous renvoyer à un livre qui s'appelle Les chiens de garde. Ensuite, il y a eu les nouveaux chiens de garde, une nouvelle génération, une nouvelle époque. Puisque les chiens de garde, je pense que c'était juste avant la guerre de 40, c'est ça, les années 30. Hein. Et comment il s'appelait déjà, vous pouvez me... Paul Nizan, voilà, Paul Nizan, un proche de Sartre, je crois. Et ensuite, il y a eu Halimi, hein, c'est ça, Serge Halimi, pour les nouveaux chiens de garde. Et il y a eu un film de Kergoat, je pense, un très bon documentaire de Yannick Kergoat, qui s'appelle Les nouveaux chiens de garde. Je vous invite énormément à voir ce film, qui est un film vraiment formidable sur les liens entre le pouvoir et ses valets. Pour résumer la chose, en Grèce comme en France, c'est le pouvoir économique qui possède les médias dominants, ce qui lui permet de fabriquer l'opinion, ce qui lui permet de déterminer le pouvoir politique qui va ensuite servir au mieux ses intérêts. La boucle est bouclée, nous sommes piégés dans une nasse. Et donc, il y a des journalistes qui servent à ça. Et d'autres, bien sûr, qui désobéissent, soit de façon claire, soit quelquefois en nous transmettant des informations. Et c'est le cas parfois en Grèce. Parfois, dans les administrations, au sommet même de certaines administrations, on apprend plein de choses. C'est ce qui est évoqué quand on parle de Rouvikonas dans le film. Par rapport au code, aux informations qu'on peut avoir. Il y a beaucoup de choses qui sortent. Le problème pour le pouvoir en Grèce, et même en France de plus en plus, c'est qu'autour de lui, il est entouré de valets qui, en fait, ne lui obéissent plus en réalité et qui font la même chose que d'autres ont fait durant des époques majeures de résistance, quoi. Voilà. Il y a des gens qui résistent quelquefois de l'intérieur après avoir pris conscience d'un certain nombre de choses. Et ça, c'est particulièrement intéressant. Après, pour la population, la deuxième partie de la question... dans la population, il y a de tout. Évidemment, ce bain, on l'appelle l'imaginaire social. Je prends les mots de Castoriadis, Cornelius Castoriadis. Il y a un imaginaire social institué, qui est institué par non seulement les médias dominants, mais aussi les modèles qu'on voit dans la publicité, et aussi les éléments de langage qui sont utilisés par les personnes qui sont les plus exposées dans le cercle médiatique. Et par ailleurs, il y a un imaginaire social radicalement instituant, qui est le fruit de toutes les formes de création qui accompagnent la résistance dans tous les domaines. Voilà. Donc tout ce qui peut être subversif, original, créatif, du cinéma, en passant par les livres, les chansons. Hein, je vois un certain Marc-André au fond de la salle, par exemple, qui nous en a composé de belles, d'autres parmi vous sans doute. Et au fil de la tournée, on en croise quelques-uns, des chanteurs qui participent à cet imaginaire social aussi. Et puis vous, en discutant autour de vous, en rencontrant des gens, vous faites votre part de reconstruction de l'imaginaire social en opposant à l'imaginaire social dominant, à ces idées reçues, à cette pensée unique, pour le dire autrement, à ces éléments de langage qui circulent. Et quand on fait circuler ces éléments de langage, on fait circuler malheureusement souvent des idées qui sont véhiculées par ces éléments de langage, des arrière-pensées. On appelle ça, nous, en philosophie, des présupposés, quoi, ou des préjugés, si vous préférez. Et donc, par conséquent, c'est vraiment un rapport de force extrêmement important. C'est peut-être même le rapport de force le plus important, parce qu'en face de nous, on a un pouvoir qui a tout prévu pour la bataille, pour l'insurrection sociale et la répression qui suivrait. Et alors que si, par contre, l'imaginaire social se développe d'une façon différente, là, par contre, le pouvoir ne peut absolument rien faire contre un raz-de-marée de personnes qui désobéiraient et qui auraient compris ce qu'on pourrait faire après. En l'occurrence, il y a des perspectives aujourd'hui qu'on remarque en Grèce qui sont très fortes. Ça vous intéresse, ça, que je vous développe là-dessus ? Ouais. Il y a trois constats qui sont de plus en plus partagés dans la population, et je crois qu'en France, c'est également le cas de plus en plus. Ces trois constats concernent les trois domaines les plus importants dans nos vies. Le premier constat concerne le fait que nous ne sommes pas en démocratie. Je ne dis pas plus en démocratie, je ne dis pas tout court en démocratie. Nous ne sommes pas en démocratie, cela pour trois raisons. La première raison, c'est la raison factuelle que j'évoquais juste avant par rapport à la possession des médias dominants par le pouvoir économique, qui ainsi choisit le pouvoir politique qui va servir au mieux ses intérêts. La deuxième raison pour laquelle nous ne sommes pas en démocratie, c'est une raison historique. C'est que le germe de la démocratie dans l'Antiquité grecque, dans l'Athènes antique, certes, il n'y avait pas les femmes, il n'y avait pas les esclaves, il n'y avait que 5% des gens qui étaient concernés, mais néanmoins, c'était quand même un germe de démocratie, mais en l'occurrence, de démocratie directe. La démocratie, ça voulait dire la démocratie directe, pas autre chose. Et enfin, un troisième argument, une troisième raison pour laquelle nous ne sommes pas en démocratie, c'est tout simplement l'élément conceptuel, c'est-à-dire que quand on parle de démocratie représentative, en réalité, on parle de personnes qui font des sondages pour savoir ce que les gens veulent entendre, qui promettent ensuite ce que les gens veulent entendre et qui ensuite ne respectent pas leurs promesses, tous les 4 ans, tous les 5 ans ou tous les 6 ans. Donc cela n'a rien à voir avec la démocratie, pour les trois raisons à la fois historiques, conceptuelles et factuelles. Ça, c'est donc le premier point. On a un constat qui est de plus en plus partagé dans la population et qu'on a pu vérifier récemment encore avec le mouvement des Gilets jaunes, qui au départ revendiquait simplement le droit de pouvoir aller au travail en ayant un prix moins élevé à la pompe à essence, et qui finalement a tendu progressivement vers le cœur du problème, parce que les gens ne sont pas idiots, ils se rendent vite compte du cœur du problème, qui est tout simplement un besoin de démocratie, une revendication démocratique très forte, avec le RIC, le RIP, enfin, il y a eu plein d'exemples par la suite. On parle de mandat impératif, vous avez des bouquins sur le sujet aussi, sur le mandat impératif, qui sont particulièrement intéressants, la révocation des élus. Bref, pourquoi à l'échelle d'une association de 1901, on peut, une partie des adhérents, demander une assemblée générale extraordinaire et demander de remettre en question le bureau ou les orientations ou changer les statuts, et pourquoi on ne peut pas le faire à l'échelle d'une commune? Pourquoi on ne peut pas le faire à l'échelle d'un pays? C'est aussi simple de le faire, ça ne pose aucun problème. Voilà. Et ensuite, le deuxième constat qui est extrêmement important, il concerne tout simplement ce que vous avez dans votre assiette, les uns et les autres. Il concerne, en l'occurrence, le deuxième mot qui est gravé sur les monuments publics, c'est le mot égalité, en l'occurrence l'égalité sociale. Et alors que nous sommes censés tendre vers plus d'égalité sociale, hein, selon la devise républicaine, nous allons à l'inverse vers toujours moins d'égalité sociale, toujours plus d'inégalité. Et on peut le vérifier de bien des façons. Les chiffres sont là. Et dans les faits, qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons des étudiants faire la queue au Resto du Cœur. Nous voyons des personnes âgées qui n'arrivent plus à se suffire de leur retraite pour se nourrir correctement. Et nous voyons que nous passons de 200 personnes qui ont autant que la moitié la plus riche de l'humanité à 8 personnes seulement désormais qui ont autant que la moitié la plus pauvre de l'humanité. Donc c'est un problème global et pas seulement en France ou en Grèce. Troisième constat qui est de plus en plus partagé, c'est enfin, et c'est le plus important sans doute, c'est le constat que le capitalisme est profondément mortifère. Il y a 150 ans, nos auteurs qui sont dans les cartons de citation et sur la table de presse, ces auteurs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils faisaient une critique du capitalisme et de la société autoritaire extrêmement affinée, mais néanmoins, ils n'avaient pas évidemment les éléments dont nous disposons aujourd'hui pour comprendre encore mieux à quel point le capitalisme mène à notre perte. C'est-à-dire cette utopie, parce que l'utopie, ce n'est pas la nôtre, hein, ce n'est pas la vérité de demain au sens de Victor Hugo. En l'occurrence, on parle vraiment de quelque chose de complètement abstrait et impossible. Atopos, donc, ce n'est pas utopos, le lieu bon, mais atopos, le lieu qui n'existe pas. Une croissance infinie dans un monde fini. Non, merci, ce n'est pas possible. Et avec deux superstitions qui sont à la base de cette idéologie, la main invisible du marché qui organiserait tout, et deuxièmement, la théorie du ruissellement, qui permettrait de passer d'une poche à une autre, on ne sait comment. Et donc, par conséquent, oui, aujourd'hui, il y a de plus en plus de gens qui partagent ce constat que le capitalisme nous mène à notre perte en voulant transformer la vie tout entière, la planète, en marchandise. Et nous détruit non seulement la planète, mais détruit tout ce qui existe, tout ce qui vit sur Terre, y compris l'humanité, bien sûr. Et donc, cette nature profondément mortifère du capitalisme, elle est vraiment un constat de plus en plus partagé dans la population. Et du coup, en Grèce comme en France, en tout cas, en l'occurrence en Grèce, il manque quelque chose. Il manque quelque chose. C'est-à-dire, on a atteint un niveau, au niveau de ces trois constats, on a atteint un niveau de conscience politique, critique, extrêmement élevé, extrêmement pointu, mais qui ne permet pas encore d'atteindre le point de bascule par rapport à ce qu'on a dit avant, c'est-à-dire un imaginaire social encore insuffisant en termes d'alternatives. Les gens ne se rendent pas compte encore que ça ne va pas détruire leur vie d'avant, ça va simplement l'améliorer, de passer à autre chose. Voilà, qu'il n'y a rien à perdre. Enfin, si, pour certains peut-être, mais ils ne sont pas nombreux, je peux vous dire. Hein. Sinon, pour le reste, on a tout à gagner à sortir de ça, et puis surtout la vie, tout simplement, parce qu'autrefois, on voulait simplement vivre autrement. Là, il s'agit carrément de sauver la vie. Quoi. Voilà. Donc, pour nous, si on arrive, les uns et les autres, à mieux faire comprendre que les alternatives ne sont pas menaçantes, mais au contraire, sont un appel d'air pour passer à autre chose, et qu'elles sont déjà là, elles sont déjà à disposition, qu'on peut vérifier que l'autogestion, ça marche. Un dernier exemple, l'autogestion. Allez, prenons un exemple à grande échelle, la sécurité sociale. La sécurité sociale, beaucoup de gens croient que c'est l'État, alors qu'à l'origine, certes, elle a été détricotée avec le temps, mais à l'origine, c'est un projet autogestionnaire conçu par la résistance à l'époque où la base sociale, le mouvement ouvrier, avait encore les armes de la résistance à la main et pouvait faire pression sur un patronat qui avait largement collaboré. En mars 1944, ce projet est né, il a été construit, il a été bâti, il a dépassé le budget de l'État. Et il a montré qu'il fonctionnait très bien. L'autogestion, ça marche à toutes les échelles. L'horizontalité également. Et les coopératives ouvrières, il en existe dans le monde entier qui sont immenses. Et dans lesquelles les ouvriers ont tous le même, les personnes qui travaillent ont toutes le même salaire et décident ensemble, en assemblée, en début de semaine, de ce qu'elles vont faire dans la semaine. Voilà, ça fonctionne très bien, ça ne pose aucun problème. Donc en fait, la société de demain, elle est déjà là. Et on a déjà vérifié qu'elle fonctionnait très bien.
Merci bien de nous donner beaucoup d'espoir avec cet optimisme. Mais la société de demain, effectivement, elle peut être celle-là, mais dans les urnes et dans beaucoup de pays actuellement, l'évolution de la société, elle ne va pas dans cette direction. Et le doute sur la démocratie que beaucoup de gens expriment, effectivement, il se traduit pas par une demande de solidarité, pas par une demande d'ouverture à l'autre, pas par une demande de générosité ou d'altruisme. Il se traduit par un rétrécissement, et ben, je ne vous donne pas de...
Sur soi.
Voilà. Ça, c'est une autre perspective beaucoup plus sombre.
Oui, tu as tout à fait raison. En situation de crise, on a deux réactions possibles. La situation de crise qui peut être le temps critique qui nous pousse à la critique, c'est-à-dire à la remise en question, hein, et qui nous pousse aussi, quelquefois, au contraire, dans un choc réactionnel, dans une situation de choc, à nous replier sur nous-mêmes, nous recroqueviller sur nous-mêmes. Voilà. Et en plus, ça peut être amplifié, ça peut être favorisé comme réaction par des médias dominants qui sont éventuellement au service de cela. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je veux dire que, historiquement, on a pu le vérifier, et de façon logique, on peut comprendre pourquoi également. Les médias dominants du pouvoir économique, donc, qui appartiennent au pouvoir économique, actuellement en France, comme dans d'autres pays du monde, font monter les curseurs de la présence médiatique des dirigeants de l'extrême droite de façon extrêmement nombreuse et très favorable, hein, c'est le moins qu'on puisse dire, et donc manifestement cherchent à faire monter l'extrême droite, c'est-à-dire à détourner la colère vers des boucs émissaires de circonstances qui ne sont pas forcément les mêmes selon les époques, et qui permettent de faire oublier qui sont les vrais responsables. Le fascisme est, comme l'a dit Gramsci, comme l'ont dit beaucoup d'auteurs, le stade ultime du capitalisme en temps de crise. Et tout cela, on peut le comprendre de façon très simple quand on analyse la nature profonde de notre société. Nous venons de donner trois raisons pour lesquelles nous ne sommes pas en démocratie. Hein, les raisons historiques, raisons conceptuelles, raisons factuelles. Donc si nous ne sommes pas en démocratie, nous sommes dans quoi? Dans quel type de société sommes-nous si nous ne sommes pas en démocratie? Nous sommes dans une société, la plupart des gens dans cette salle, je pense, partagent cet avis, nous sommes dans une société autoritaire, puisque nous ne sommes pas en démocratie. Donc si nous sommes dans une société autoritaire, cette société qui nous berce d'illusions par rapport à la nature du système politique, ce système donc peut être encore plus violent si nous perdons nos illusions, nous perdons notre foi en... ces valeurs qui nous sont proposées et en fait qui ne correspondent pas à la réalité. Car oui, même libertaires, par exemple, au-delà des différences ici dans cette salle et qui sont bienvenues, on peut être libertaire et pour la liberté authentique, l'égalité réelle et la fraternité universelle. C'est même un objectif majeur. Donc on est, je crois, la plupart d'accord là-dessus. Par contre, concrètement, par rapport à l'évolution de la société, nous sommes face à un pouvoir qui, de plus en plus, se sachant en crise, renforce les moyens de l'armée. Macron a augmenté de 40% le budget de l'armée. Les manœuvres aujourd'hui ont quasiment pour seul objet, les manœuvres militaires, pour seul objet l'ennemi intérieur. L'équipement policier également a beaucoup évolué depuis pas mal d'années. Et on a vu le résultat, les équipements aussi, quasiment, on a presque des tanks qui sont à la disposition de la gendarmerie maintenant. Vous avez vu ces nouveaux véhicules qu'on a vus à Sainte-Soline, par exemple. Donc, on est dans un contexte où, manifestement, le pouvoir s'arme contre une colère qu'il sait monter dans la population. Et donc, cherche à la détourner, évidemment, vers une voie de garage, puisque c'est une voie de garage, puisque les partisans d'une société, enfin les dirigeants politiques potentiels d'une société encore plus autoritaire ne feront pas de dégâts en matière de capitalisme. Par contre, en matière de mouvement social et de victimes potentielles, en matière d'exilés par exemple, oui, ça risque d'être beaucoup plus grave. Donc pour nous, manifestement, cette tendance de l'époque que tu traduis très bien par ce qu'on remarque dans les urnes notamment, n'est pas le produit d'une base sociale qui serait complètement égarée, mais le produit d'un pouvoir qui volontairement égare une partie de cette base sociale vers une diversion en matière de responsabilité. Voilà, c'est quelque chose de volontaire et qui est systématique selon les époques. Dès qu'il y a une situation de crise, dès que les curseurs sont ou les éléments d'information donnent à penser qu'il y a un risque de soulèvement, eh bien, dès lors, on a systématiquement cette extrême droite qui est favorisée par les médias dominants au service du pouvoir économique. Voilà, pour nous, c'est quelque chose d'assez clair. Par contre, tu as utilisé un mot au début, tu as parlé d'optimisme. Et je t'en remercie, parce que moi, je ne suis pas trop partisan de l'espoir. Pardon pour ceux qui, pour des raisons religieuses, utilisent le mot espérance, apprécient le mot espérance. Je respecte cette préférence en matière de foi, mais néanmoins, concernant l'action sociale et politique et notre positionnement par rapport à ce qui nous arrive, le mot espérer, le verbe espérer, dans la plupart des langues du monde entier, il veut dire attendre, comme en espagnol par exemple. Alors que l'optimisme a pour racine le fait de regarder le monde autrement, tout simplement, optique, optimisme, d'accord ? Et par conséquent, oui, regarder le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide. Et voyez tout ce qui se passe autour de nous, ce monde presque invisible qui est autour de nous et qui est déjà là, et qui est le monde de demain.
Oui, vous avez, dans l'introduction au film, vous avez fait une brève allusion aux difficultés de tournage. Donc ça m'intéresserait d'en savoir un peu plus. Par ailleurs, vous parlez d'une tournée, donc ça m'intéresserait d'en savoir un peu plus sur votre distribution, votre autodistribution. Et puis par ailleurs, je vois que vous avez fait plusieurs films, je débarque un peu pour tout dire. Et ça m'intéresserait de savoir quelle est votre logique de réalisation de films, des films précédents, sans peut-être vous faire parler pendant des
heures. Le problème, c'est qu'ils sont tous au courant. Vous êtes les seuls à ne pas être au courant parce que.
Alors, désolé.
On s'est croisés dans la salle d'attente du cinéma. Ils ne savaient pas trop quel film voir. Et à l'entrée, des gens leur ont dit : mais il y a un film sur la Grèce, ça vous intéresse ? Oui, un film sur la Grèce ? C'est-à-dire ? Et du coup, les caissières et les demoiselles du cinéma se sont tournées vers moi. Et du coup, j'ai parlé un petit peu du film. Et vous êtes venus jusque dans cette salle. Voilà.
Voilà, je suis désolé. Je
vous
ne
le regrettez pas quand même ? Vous ne le regrettez pas ?
Je ravale mes questions.
Alors, juste pour vous dire un mot court là-dessus. En fait, nous avons donc un collectif avec lequel nous avons bien sûr des supports associatifs, différents outils à notre disposition, ce qui nous permet de distribuer ce film. Alors, quand on distribue un film, en l'occurrence, ça vous concerne directement dans cette salle, quand on distribue un film, par rapport à votre prix d'entrée dans la salle, je ne sais pas le prix d'entrée d'un cinéma à l'autre, hein, je ne m'en occupe pas, mais par contre, il y a environ 10% de taxes, on va dire environ, qui sont réglés. Et ensuite, le reste, c'est un partage de recettes entre le cinéma, qui a de grands frais, bien sûr, et la distribution du film. Voilà, par rapport à toute l'économie du film. Vous savez, pour un film, il faut envoyer un disque dur qui s'appelle un DCP. Il faut envoyer des affiches, évidemment, par la poste. Il faut les imprimer, ces affiches. Il y a plein de choses aussi, par ailleurs, qui doivent se faire autour de ça. Et après, tout le reste, entièrement, ça va en Grèce. Voilà. Moi, je suis membre de deux des collectifs que vous avez vus à l'écran. Donc, j'ai un pied dans chaque mouvement social, en fait. Je suis né en Grèce, en France, et j'ai vécu en Grèce à ma jeunesse et encore récemment. Là, je suis à mi-temps entre la France et la Grèce depuis environ 15 ans. Et mon père est grec, ma mère est française, voilà, pour tout vous résumer. Et d'autres personnes de notre collectif sont grecs ou français et s'occupent de ça, notamment au niveau du collectif filmique par rapport à la création de ces films. Donc on a fait « Nous ne vivons plus comme des esclaves » en 2013, qu'on a tourné en 2011 et 2012 surtout. « Ne vivons plus comme des esclaves ». Tout ça est disponible sur Internet. Hein. Je rappelle, c'est pas besoin de prendre le DVD, mais vous pouvez le prendre si vous voulez. Hein. Il y en a plein qui vont le prendre pour le partager autour d'eux, parce que c'est vrai que c'est un outil qui se prête et qui se donne facilement. Après, on a fait « Je lutte donc je suis », qui se passe en Grèce et en Espagne, en Andalousie, en Catalogne. Et ensuite, en 2018, on a fait « L'amour et la révolution ». Et là, on nous engueule parce que ça faisait trop longtemps qu'on n'avait pas sorti un film. Voilà. Concernant, pour finir, la première partie de votre question qui concerne les difficultés de tournage, bon, on n'a pas eu 5 caméras brisées comme d'autres, mais on a eu une caméra brisée, un appareil photo brisé, 3 micros arrachés de caméras, vous savez qu'on met sur les appareils photo, tout ça, et des points de suture. Alors pas que moi, lors des charges policières, latérales en particulier, parce qu'on est en train de tourner, on est très vulnérable de cette façon-là, et ils le font exprès. Donc notamment je pense à Kini Matini du collectif Perseus 999, pour ceux qui suivent ça sur YouTube, vous devez la connaître indirectement. Moi j'aide un petit peu ce collectif aussi sur cette chaîne YouTube qui s'appelle Perseus 999. Kini Matini a été volontaire plusieurs reprises par les forces de police, et en plus le tournage a commencé par une embuscade nazie sous les yeux de la police du Pirée. Je passe devant la police, je me dis c'est bizarre, ils sont bizarres. Je sors d'un centre social autogéré, favela au Pirée, qu'on venait d'aider en convoi solidaire. On savait qu'on était observé par les fascistes, etc., puisqu'on avait fait la une des journaux. Alors là, je vous renvoie à L'amour et la révolution, deuxième moitié du film, quand on vous montre qu'à chaque convoi solidaire, au contraire de ce qui se passe en France, l'invisibilisation du mouvement social et de ses initiatives, en Grèce, les médias font des tonnes, on fait la une des infos, on fait la une du JT à chaque fois qu'on arrive en convoi solidaire. Et du coup, comme en plus on raconte n'importe quoi sur le fait qu'on transporterait des kalachnikovs, de quoi faire des molotovs, enfin bref, du matériel en tout genre, voilà, qui n'est pas que du bricolage en l'occurrence. Et du coup, ça excite d'autres médias qui sont d'extrême droite, des journaux qui font la couverture avec notre arrivée, avec des photos imaginaires, avec du feu partout, des flammes partout, etc., pour exciter la population, une partie de la population contre nous. Et le résultat, c'est que peu après L'amour et la révolution, c'était en fin 2019, j'étais l'objet d'une embuscade à la sortie de la livraison de Favela, de ce centre social autogéré au Pirée. Je suis passé devant la police, et peu de temps après, à un coin noir où je devais rejoindre une rame de tramway, j'étais attaqué par des néo-nazis d'aube dorée. Et c'est des gens qui sont sortis. Il y a une rame de tramway qui est arrivée peu après, assez rapidement, alors qu'il n'y en a pas fréquemment à cet endroit-là, assez rapidement, qui ont filmé la scène, qui sont venus, certains ont crié, d'autres ont filmé la scène, et du coup, ça a fait partir les néo-nazis, qui ont été un peu interceptés par quelques camarades de favela qui sont arrivés en secours aussi. Voilà. Donc je m'en suis bien sorti, j'ai été hospitalisé bien sûr, mais voilà. Après, vous savez, c'est quand on vieillit, l'avantage, c'est qu'on prend du ventre, par exemple, qu'on prend de la graisse aussi derrière, dans le dos. Voilà. Et j'ai un ami à moi auquel je pense quand je dis ça, parce que Azem de Marseille, du Molotov, que certains doivent connaître, son chirurgien lui a dit que s'il n'avait pas grossi autant, parce qu'il a un vide un petit peu, s'il n'avait pas grossi autant, les coups de couteau qu'il a reçus devant chez lui par un groupe de fascistes à Marseille l'auraient percé les organes vitaux. Voilà. Et donc, grâce à son abdomen, messieurs, je tiens à vous dire, voilà, les bouées, hein, voilà, vous pouvez dire aux personnes qui vous entourent que quelque part, vous faites action antifasciste en vous nourrissant comme vous le faites. Voilà. Moi, ça rebondit sur ma nuque et sur mon dos. Les points positifs, c'est vrai, il faudrait quand même en parler. Alors, on va dire, premièrement, que Pia Klimp, vous avez reconnu Pia Klimp, la navigatrice de sauvetage, notre amie Pia Klimp. Donc, elle est passée en procès le 2 mars par rapport au sauvetage en mer à l'époque de Juventa, donc avant le Sea-Watch et surtout avant le Louise Michel. Et elle est finalement bénéficié d'un non-lieu, puisqu'ils n'ont pas de preuves, évidemment, ils ne peuvent pas en trouver comme quoi il y aurait eu des arrangements avec des passeurs, ce qui est tout à fait faux, bien sûr. Et donc, à la fois Pia Klimp, capitaine, et les autres membres de l'équipage, une dizaine de membres de l'équipage du Juventa sont hors de danger maintenant, puisqu'ils risquaient jusqu'à 20 ans de prison pour avoir sauvé des vies en mer. Et par contre, elles ne se sont pas laissées faire, notamment Pia, et ont demandé à ce que soit reconnue la légalité de leur action. Ça, c'est extrêmement important. Donc, on va avoir un délibéré le 19 avril exactement. Et si ce délibéré, là, selon ce que je sais, c'est qu'on est tout près de réussir, si ce délibéré confirme la légalité de l'action, ça sera une jurisprudence qui sera utile à tout le monde, y compris SOS Méditerranée. C'est extrêmement important. C'est aussi important que quand Cédric Héroux, par exemple, avait réussi à faire référence au principe fraternité dans ses actions solidaires à la frontière de l'Italie. Voilà. Donc ça, c'est une première bonne nouvelle. Vous en voulez une autre? Alors, à Exarchia, on a deux luttes majeures qui concernent une, le métro, sur la place. Donc, au niveau du métro, pour l'instant, ça n'a pas du tout avancé au niveau des travaux. Et par contre, il y a quelques petits problèmes de palissade. La palissade, elle a des trous de temps en temps et des petites souris qui déboulonnent la nuit la palissade. Donc, c'est un peu embêtant parce que du coup, il faut faire des arrivages d'aspirine pour la police régulièrement, quand on en compatit. Et par contre, par ailleurs, sur la colline d'Exarchia, puisque l'Exarchia, c'est d'abord et avant tout une colline qui s'appelle la colline de Strefi. Sur cette colline, donc, maintenant, la police est partie. Elle a été un peu chassée, on va dire. Et l'entreprise de BTP, qu'elle protégeait également, bien sûr, qui a renoncé à essayer de faire un grand projet immobilier sur la colline de Strefi. Donc désormais, depuis quelques jours seulement, la population du quartier, dans sa diversité, avec des enfants, des personnes plus âgées, des gens de différents courants, vu les circonstances un peu difficiles et hostiles, justement, c'est l'exemple que je vous donnais tout à l'heure, à l'instar de ce que je vous disais tout à l'heure, il y a beaucoup plus de coexistence bienveillante entre les différents courants politiques du quartier. Ça, c'est vraiment un plaisir de voir ça, notamment dans la lutte contre le métro et la lutte pour la défense de Strefi. Et donc, actuellement, il y a des assemblées régulièrement sur la colline pour voir ce qu'on va faire de cette colline qu'on a reprise en main. On va la laisser s'ensauvager pour la plus grande partie, hein, parce que je pense qu'on est à une époque où il y a un petit besoin d'ensauvagement quand même. Et donc, il y aura quand même du nettoyage à faire, qui a déjà commencé, parce que je peux vous dire qu'ils en ont laissé des saletés. C'est une vraie décharge, cette colline, actuellement. Et donc, il y a différents projets, mais ça va se faire dans la durée, tranquillement, notamment un espace pour les enfants, et puis un petit jardin avec des essences adaptées qui correspondent à cette colline. Et puis surtout, on a un très grand théâtre en pierre que ceux qui sont déjà venus en convoi connaissent, où on a le plaisir de se réunir. Un théâtre un peu à la façon antique, avec des pierres, et où il y a pas mal d'activités artistiques, culturelles et militantes régulièrement. Voilà. Des assemblées ouvertes, bien sûr.
Et puis, rien que le fait que Exarchia continue à exister, alors que Mitsotakis, il avait dit la phrase, hein, la c'est police ça. Va aspirer tous les déchets dans Exarchia.
C'était un mois. Incroyable. Il avait dit qu'un mois, ça serait fini pour Exarchia et voilà. Pour Rovikonas, bien sûr. Et bon, ça fait quand même, depuis 2019, ça fait quoi? Ça fait 4 ans et demi, c'est ça? Voilà, 4 ans et demi. Bon, c'est un peu long quand même tout ça. Hein, voilà. Pour l'instant même, ça, c'est plutôt un rétropédalant plutôt. Donc, et puis surtout, ça nous a permis de déconcentrer nos activités par rapport au quartier, parce que quelque part, on avait une autocritique dont on avait déjà parlé certains d'entre nous ici. C'est-à-dire, en Grèce, on se disait peut-être qu'on était, même s'il y avait une dimension symbolique très forte dans ce quartier, qui reste un symbole majeur connu dans le monde entier, pas par tout le monde, Mais si, vous avez entendu parler d'Exarchia. Et donc, du coup, il y a une nécessité aussi de se mélanger à la population un peu plus, quoi. Et d'ailleurs, ça s'adresse à nous, à chacun d'entre nous. Il ne s'agit pas seulement du quartier d'Exarchia. Il s'agit de nous, nous-mêmes, dans la façon dont nous fonctionnons, quoi. C'est très bien de se regrouper par affinité, comme dit la chanson, mais c'est vraiment important aussi d'aller à la rencontre de personnes différentes. Et c'est aussi pour ça que mon autre activité, c'est de faire de la philosophie avec les enfants. C'est mon métier, puisqu'à l'occurrence, moi, je suis un amateur en cinéma. Je suis venu au cinéma en tournant la molette de mon appareil photo en mode vidéo lors du début de Ne vivons plus comme des esclaves, parce qu'auparavant, je faisais des photos. Ma compagne faisait beaucoup de photos aussi. On essayait de sauvegarder la mémoire des murs d'Athènes. Et aussi, on écrivait des articles, notamment pour le journal satirique Ciné Hebdo, et puis Ciné-Mensuel par la suite, des journaux militants comme La Décroissance, Le Monde Libertaire et d'autres journaux. Le Monde Diplomatique, c'est arrivé aussi. Voilà. Et aujourd'hui, depuis 12 ans, on a fait 4 films pour vous montrer un petit peu ce qui s'y passe. Mais ce sont des films, je tiens à vous le signaler, qui sont vraiment conçus collectivement avec le mouvement social en Grèce, avec les collectifs auxquels on participe. Moi, des membres de l'Assemblée du Notara 26, moi de l'Assemblée du Cavox. On est impliqué avec la structure autogérée de santé depuis longtemps. On est impliqué aussi avec des collectifs en Crète, puisque nous, on a un pied, quand on est en Grèce, on a un pied en Crète, un pied à Athènes. Voilà, mon père est crétois, j'ai beaucoup de ma famille qui est en Crète. Et du coup, bon, sachez qu'en Crète, par exemple, parmi les bonnes nouvelles, tous les squats de Crète ont été repris, tous ceux qui avaient été évacués, et notamment les deux plus grands. Rosa Nera, ça a commencé par Rosa Nera en 2019, qui a été repris au bout d'un mois et demi à Chania, à l'ouest de la Crète, un des plus grands squats en Grèce, gigantesque et magnifique si vous allez un jour. Et de l'autre côté, à Heraclio, le squat Evangelismo, qui a été évacué en octobre 2023. Merci. Et qui a été repris également par le mouvement social fin novembre 2023. Avec un soutien massif de la population. À chaque fois, c'est un soutien massif de la population, pas seulement du mouvement social, avec des milliers de manifestants dans les rues, etc., et qui viennent aider à reprendre le squat et qui participent beaucoup plus qu'avant. Donc finalement, c'était un mal pour un bien. Ça nous a visibilisé. Je ne sais pas si on peut utiliser ce verbe. Et du coup, ben, la population vient beaucoup plus à toutes nos activités dans ces très grands squats qui proposent des projections de films, qui proposent des bistrots avec des boissons non alcoolisées à prix libre, parce qu'il y a des gens qui ont du mal à pouvoir sortir dans des endroits gentrifiés où la vie est très chère, quoi, pour sortir. Des ateliers, y compris pédagogiques pour les parents, pour s'intéresser un peu aux pédagogies coopératives, par exemple la pédagogie freinée ou autre, quoi, pour essayer d'aborder les relations parents-enfants autrement. Voilà, parce que si on veut changer de société, il faut quand même se dire aussi que la démocratie directe, par exemple, hein, si je prends cet exemple-là, ne suffira pas. Si vous faites la démocratie directe aujourd'hui sans préparer cela, vous aurez la peine de mort, vous aurez des décisions par rapport aux exilés qui ne seront pas forcément celles que vous attendez. Attention, donc ça veut dire qu'il faut remettre en question également cette fabrique de l'opinion qui passe par des médias dominants qui doivent être absolument remis en question. Également cette éducation qui nous pousse à la compétition, qui nous pousse à marcher les uns sur les autres et qui pourrait être remplacée définitivement par une éducation coopérative, solidaire, basée sur l'entraide et voilà, qui nous permettrait de nous préparer à une vie d'adulte tournée vers les autres. Hein, et plus respectueuse dans la logique de la liberté, de l'égalité, de la fraternité. On n'a pas besoin de changer la devise de la société. Il n'y a pas de souci, on peut la garder, cette devise, sauf qu'elle deviendra réalité, tout simplement. Et enfin, on passera du mot pouvoir au verbe pouvoir. On ne va pas supprimer le pouvoir, je tiens à rassurer certains. On va juste supprimer le mot pouvoir, mais pas le verbe. Au contraire, le verbe retrouvera toute sa force parce que, justement, ce sera débarrassé du mot pouvoir, c'est-à-dire l'entité qui prétend nous gouverner, nous diriger, nous dire comment il faut vivre. Nous pourrons tout simplement enfin pouvoir, en termes de capacité, nous aurons la capacité de choisir nos vies. Et même si tout allait bien, même si tout allait bien au niveau de la planète, au niveau de l'égalité sociale, au niveau de la vie démocratique entre nous, même si tout allait bien dans tous ces domaines, est-ce que ça ne serait pas dommage, de toute façon, de laisser des gens décider à notre place ? Est-ce que ce ne serait pas un peu absurde ? Mais comme en plus, il me semble que tout ne va pas si bien, hein, sur tous les plans qu'on a évoqués, par conséquent, il est peut-être temps de sortir de la préhistoire de l'humanité et de prendre nos vies en main. Merci beaucoup à toutes et tous. Alors, les films précédents sont à votre disposition, vous pouvez les projeter où vous voulez. Ne vivons plus comme des esclaves, donc je suis l'amour et la révolution, vous les projeter dès demain où vous voulez, dans n'importe quel lieu. Hein. Et le celui-là, quand il sera disponible sur Internet, vous en ferez aussi ce que vous voulez. Voilà. Dès qu'il sera disponible sur Internet, vous nous laissez le temps de construire la version longue. Dans quelques temps, vous aurez bien sûr cette version à votre disposition. Et vous serez informé. Si vous voulez rester en contact avec nous, savoir les bonnes nouvelles en Grèce et savoir quand sort le film, etc., sur Internet et savoir la suite de la tournée, vous pouvez laisser votre email sur la table de presse. C'est comme ça qu'on reste en contact. Vous pouvez vous désabonner à la fin de chaque email que vous recevez une fois par mois seulement. Info sur la Grèce, quelques nouvelles, quoi, une fois par mois environ, et la possibilité de se désabonner à chaque fois. Voilà. Et sur la table de presse, non seulement je ne conseille pas les DVD, mais je conseille un livre que je viens de découvrir. C'est le livre sur Malatesta. C'est une bande dessinée et elle est géniale, que ce soit pour les adultes et aussi pour les enfants. On m'avait dit que les ados adoraient et je comprends pourquoi. Voilà. Donc je vous la conseille particulièrement.
Merci beaucoup, Yanis.
Et je voulais dire que la semaine prochaine, si vous voulez, on fait une projection de L'amour et la révolution ou un autre film de Monsieur Yuruntas. Du coup, ça sera La Bourse du Travail et vous pouvez suivre les infos sur AngéluteInfo sur Instagram. Du coup, pour poursuivre le truc et pour poursuivre les discussions. La semaine prochaine, mercredi vers 19h, où on verra ça. Mais suivez sur Instagram AngéluteInfo.
AngéluteInfo, d'accord.